Mais vous savez, ces combats, ils prennent toujours du temps. Parce que dans le fond, c'est quoi? C'est essayer d'élargir le champ de la démocratie.
Gabriel Zucman, on est très heureux de vous recevoir parce qu'on voudrait parler de l'actualité avec vous. Et en l'occurrence, la fameuse taxe qui porte votre nom, la taxe Zucman, n'a pas été votée à l'Assemblée nationale dans le cadre des débats budgétaires. Est-ce que vous les avez suivis, ces débats budgétaires? Et quel a été votre sentiment à ce moment-là?
Oui, j'ai suivi ça de près, comme je l'avais suivi déjà en février, quand cet impôt plancher de 2% avait été adopté cette fois par l'Assemblée nationale dans le cadre d'une niche parlementaire du groupe Les Écologistes. Moi, je trouve que le niveau du débat a beaucoup monté. Moi, je me réjouis du fait que, franchement, c'est bien posé maintenant. Il y a la plupart des Français qui comprennent le problème. Mmh. Les milliardaires payent deux fois moins d'impôts, tout prélèvement compris, que le Français moyen. Principalement parce qu'ils ne payent pas d'impôt sur le revenu et qu'ils comprennent la solution, qui est la solution la plus logique, la plus évidente, c'est qu'il faut venir créer un plancher, un minimum. C'est des idées relativement nouvelles parce que la recherche qu'il y a derrière tout ça, elle a été faite au cours des 3-4 dernières années. La solution, elle a été inventée, elle a été imaginée d'abord en travaillant au G20 l'année dernière avec le Brésil. Enfin, tout ça est très récent et moi, je me félicite des progrès qu'on a réalisés en si peu de temps.
Bon, pour autant, c'est une défaite pour la gauche à l'Assemblée nationale qui n'a pas réussi à imposer cette idée dans le budget à nouveau, si je puis dire, parce que ça avait déjà été voté dans des conditions particulières. Mais est-ce que la gauche n'a pas réussi à gagner une forme de bataille culturelle dans l'opinion? Précisément, vous le disiez, plus de 80% des Français sont pour la taxe Zucman.
Ouais, exactement. Et c'est dans toutes, d'ailleurs, les sensibilités politiques. Hein. C'est pas que la gauche.
C'est
oui, plus de 90% des électeurs de gauche, mais aussi 90% chez les macronistes, chez les LR, 75% chez les électeurs du Rassemblement national. Et c'est pas que en France. D'ailleurs, c'est dans tous les pays. Il y a eu des enquêtes d'opinion aux États-Unis. Il y en a eu des dizaines.
Et alors?
C'est pareil. C'est dans tous les pays, 70%, 80% des gens qui en ont assez de l'impunité fiscale des milliardaires et qui veulent qu'on s'y attaque sérieusement. Mais vous savez, ces combats, ils prennent toujours du temps. Parce que dans le fond, c'est quoi? C'est essayer d'élargir le champ de la démocratie. C'est ça, dans le fond. Les milliardaires ne sont toujours pas entrés dans le champ de la solidarité nationale. Ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Près d'un siècle après sa création, cet impôt sur le revenu, ça reste une révolution inachevée. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? C'est de poser le principe que l'autorité de la puissance publique, elle doit s'exercer sur les immenses fortunes. Ce serait, même si le taux de 2% est modeste, ce serait quand même une petite révolution démocratique. Et ce n'est pas des combats qui se gagnent comme ça en quelques semaines ou même en quelques mois.
Bon, il y a quelque chose de cranté en tout cas et on croit là-dessus. Emilio?
Oui, alors je suis d'accord avec ce que vous dites, la bataille culturelle, elle est gagnée. Je rajoute même un chiffre, 76% des petits patrons, des commerçants, artisans, ils sont favorables à cet impôt plancher. Donc la bataille culturelle, elle est gagnée dans la société, mais par contre, on l'a dit, à l'Assemblée nationale, il y a quand même, c'est l'inverse. Il y a un rapport de force qui est opposé, les macronistes, la droite et le Rassemblement national. Pourquoi, d'après vous, ils s'arc-boutent pour empêcher cet impôt de voir le jour? Comment vous l'expliquez, ça?
Je pense principalement par la mobilisation que tout le monde a vue des contribuables concernés, des très grandes fortunes françaises, des milliardaires, qui là, en septembre, en octobre, ont quand même utilisé peu ou prou toutes les armes à leur disposition, y compris bien sûr les médias qu'elles contrôlent, pour faire comprendre que cet impôt plancher, elles n'en voulaient pas. Et c'est toujours comme ça historiquement. Hein. Vous savez, c'était la même chose au début du XXe siècle, au moment du vote de l'impôt sur le revenu. Il s'agissait de créer un impôt sur le revenu au taux de 4% sur les revenus, pas sur les patrimoines, sur les plus hauts revenus de l'époque. Et ça avait suscité des levées de boucliers, des protestations des grandes fortunes de l'époque incroyables. Et ça avait mis longtemps, ça avait mis 7 ans en l'occurrence, hein, entre le dépôt du projet de loi à la Chambre des députés, porté à l'époque par Joseph Caillaux, ministre des Finances, et son adoption par le Sénat en 1914. Là, je ne pense pas qu'on puisse se permettre franchement d'attendre 7 ans, hein, dans la situation d'abord budgétaire actuelle très dégradée, dans la situation politique, dans la situation géopolitique. Il est urgent d'avancer, mais ces combats fiscaux, toute l'histoire montre, hein, que quand c'est sérieux, et là c'est une proposition sérieuse, hein, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire possible pour les milliardaires, ils se mobilisent, ils se battent. Et en France, ces milliardaires ont une emprise particulièrement forte sur le débat d'idées. Vous savez, c'est même le Financial Times lui-même qui l'écrivait il y a une dizaine de jours, la Bible du libéralisme, qui disait ce qu'on ne lit plus dans la presse économique française, à savoir que les milliardaires en France, plus que dans tout autre pays d'Europe occidentale, se caractérisent par leur emprise sur la vie économique du pays et sur la vie politique de la nation, et en particulier sur le débat d'idées. qui constitue le cœur de la vie démocratique d'un pays. C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense que ça explique quand même beaucoup de choses.
Loumir ?
Moi, j'ai une question sur comment est-ce que vous abordez le débat pour convaincre les gens qui sont convaincus que c'est une attaque sur la propriété privée, l'entreprise, etc. Pour un peu de contexte, moi, j'ai une zone rurale plutôt très populaire.
Parle bien dans le micro.
Pardon, excuse-moi. Donc, une zone rurale qui est vraiment la France du RN. La France périurbaine qui est en train de tomber dans l'escarcelle du RN. Et ce que j'ai beaucoup entendu chez mes potes et autour de moi, c'est cette espèce de phénomène d'identification atroce que les ultra-riches ont réussi à créer entre un patron d'une multinationale et un petit patron, c'est la même chose. De même qu'un agriculteur comme Rousseau de la FNSEA et le gars d'à côté qui est éleveur, c'est la même chose. Et un riche, voilà. Et donc, j'ai toujours du mal à déconstruire cette idée qu'un riche, un patron, un agriculteur, ça existe. Comment est-ce que vous avez réussi ça ?
Bah, il faut déconstruire ces discours, c'est-à-dire qu'il faut rappeler de quoi on parle. On parle de taxer les personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. C'est quand même pas l'agriculteur ou le petit patron du coin. Vos interlocuteurs ne sont pas concernés. Il y a à peu près 1800 foyers fiscaux en France qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Première chose. Ensuite, on demande de les taxer, mais comment ? On ne demande pas de confisquer leur fortune. On demande simplement de s'assurer que ces très grandes fortunes payent autant en impôts que les autres catégories sociales. C'est comme ça qu'il a été calculé, le taux plancher de 2%. C'est ce qui permettrait de s'assurer que ces plus grandes fortunes ne payent pas moins que le Français moyen ou que les classes moyennes. C'est simplement mettre en conformité nos lois fiscales avec notre principe fondamental d'égalité devant l'impôt, qui en France est un principe constitutionnel, et même plus que ça, qui est un principe qui vient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc être contre le principe de l'impôt plancher, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire être pour le droit des milliardaires, s'ils y arrivent, à payer zéro. Qui peut être en faveur du droit des milliardaires à payer zéro ? Ça n'existe pas. Si on est contre, on est forcément pour qu'il y ait un minimum, un plancher incompressible.
Pour autant, on sent dans ce débat, il y a quelque chose de très charnel, de très absurde aussi parfois dans la discussion sur les impôts. On voit par exemple sur les questions sur l'héritage, ça j'adore. Même les gens qui ne sont pas du tout concernés sont parfois vent debout contre l'idée même qu'on puisse taxer l'héritage un peu plus, parce que ça, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, c'est ce que j'ai gagné à la sueur de mon front toute ma vie, ce que je transmets à mes enfants, ça me regarde, c'est intime, etc. Et là, on a l'impression aussi d'avoir quelques réactions de gens ulcérés par la taxe Zucman, comme si on allait toucher à leur portefeuille dans leur poche.
Oui, alors que c'est très différent, parce qu'effectivement, l'héritage, ça touche aux transmissions intergénérationnelles, aux familles. Et l'impôt sur les successions, il existe depuis longtemps et il touche beaucoup de Françaises et de Français. Là, ce ne serait pas le cas. 100 millions, 1800 foyers fiscaux. Et l'impôt sur les successions, oui, il est impopulaire. Il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi de plus en plus de Français veulent vraiment pouvoir laisser de l'argent à leurs enfants et considèrent que c'est de plus en plus important. Bah, je pense que c'est lié à la montée des inégalités dans notre pays, à la détérioration des services publics, où de plus en plus de gens se disent finalement pour que mes enfants réussissent, la seule façon c'est que je leur laisse quelque chose.
Paradoxalement, Émilien ?
Paradoxalement.
Oui, vous avez une approche assez, en lisant votre livre, assez historique et politique de la question des impôts, notamment sur la question de justice et de solidarité. Est-ce que, sachant l'échec, et sans doute l'échec à qui sera répété à l'Assemblée de votre taxe, est-ce que vous avez pensé ou discuté avec des responsables politiques la possibilité d'un référendum d'initiative partagée ? Certes, les taux sont des nombres de signatures requis sont très importants, mais puisque vous avez un soutien certain, est-ce que c'est quelque chose qui a traversé, sachant que ça mobiliserait les gens vraiment, et que ça ferait un sujet, enfin, quelque part un référendum sur un sujet fiscal, c'est quasiment jamais arrivé, je crois. Ça serait une occasion démocratique en plus de budget.
J'ai pas réfléchi plus que ça. Moi, je suis quand même, parce que je suis un peu plus optimiste que vous, c'est-à-dire que je pense que, ça va passer à l'Assemblée. C'est sérieux, c'est-à-dire que c'est le débat, la situation budgétaire française, elle va pas s'améliorer comme ça dans les semaines qui viennent. Hein, on a 116% de dette en pourcentage du PIB, on a un déficit de 5,4 points de PIB. C'est des niveaux, la dette publique, c'est des niveaux qui n'ont jamais vus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avant ça la fin de la Première Guerre mondiale et avant ça la Révolution française. Dans tous les cas, ça s'est fini par une mise à contribution lourde, très lourde, beaucoup plus que 2% des très grandes fortunes de l'époque. Et l'année prochaine, quand on discutera du budget en 2026, on sera dans la même situation. Donc tout ça va pas disparaître. Et donc je pense qu'à un moment, il y aura un vote positif au Parlement. Et même si ce n'est pas là en 2026, dans tous les cas, ce sera un enjeu majeur de l'élection présidentielle de 2027.
Là, c'est peut-être le moment où je vais faire mon gauchiste, mais vous l'avez dit d'ailleurs en une de l'UMA quand on vous a interviewé, 2% c'est le minimum syndical. Vous venez de le dire là, c'est pas grand-chose qu'on demande. Mais est-ce qu'il faut quand même pas aller plus loin? Parce que vous le dites, depuis 30 ans, la fortune des 500 plus grandes fortunes françaises a triplé, c'est ça
elle est passée en pourcent du PIB. Si vous prenez les 500 plus grandes fortunes françaises, en 1996, elles possédaient l'équivalent de 6% du PIB. Leur patrimoine, c'était l'équivalent de 6% du PIB. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 42% du PIB. Donc, je veux que tout le monde comprenne.
Pourquoi est-ce que ce n'est pas un peu mou, l'impôt plancher?
Je vais répondre. Mais d'abord, 42% du PIB, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec leur patrimoine, ces 500 plus grandes fortunes, elles pourraient acheter 42%, c'est-à-dire presque la moitié de tout ce qui est produit une année donnée en France. Tous les biens, tous les services du pays. D'accord, c'est quand même un niveau particulièrement extrême. 2%, bien sûr que c'est minimaliste. Ça a été conçu comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment le minimum syndical. Ça a été conçu comme ça parce que tout ça vient d'un travail d'abord au G20 qu'on a mené avec l'Observatoire européen de la fiscalité, où le but c'était de mettre à l'ordre du jour du G20 des nouvelles propositions de coopération, d'harmonisation fiscale internationale. Donc, dans une enceinte comme ça, on ne peut pas venir en disant « oui, on va faire la révolution fiscale mondiale ». Non, c'était de créer quelque chose qui soit viable à moyen terme et que les ministères des Finances des différents pays puissent s'approprier. Processus qui a commencé, d'ailleurs. Mais c'est un plancher et c'est évidemment pas un plafond. Il faut aller au-delà. Moi, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis. J'ai travaillé, par exemple, avec Bernie Sanders dans les primaires démocrates de 2019-2020 sur son programme fiscal. Il proposait de créer un impôt sur les plus grandes fortunes qui 8%. Irait jusqu'à 8% sur les patrimoines de plus de 10 milliards de dollars. C'est quelque chose qui, à mon avis, est parfaitement défendable, non seulement aux États-Unis, mais dans un pays comme la France, pour la raison suivante. Regardez l'arithmétique. Les grandes fortunes françaises, leur richesse, elle a augmenté de 10% par an en moyenne depuis 1996. Avec un impôt plancher de 2%, elles auraient augmenté de 8% par an. C'est-à-dire qu'elles auraient explosé leur richesse. Elles auraient juste explosé un tout petit peu moins vite. Les inégalités auraient continué à se creuser, même s'il y avait eu ce taux de 2%. Donc si on veut se donner la possibilité, ne serait-ce que de stabiliser, ou même, évidemment, idéalement, de réduire un tant soit peu les inégalités de patrimoine, il faut aller sur des taux nettement supérieurs à 2% et comparables à ce qu'avait pu proposer Bernie Sanders il y a 5-6 ans.
La gauche voulait tellement la taxe Zuckman qu'ils ont même été prêts à en présenter une version light à l'Assemblée nationale qui n'a pas été votée non plus. Quel regard vous avez sur cette proposition qui émanait des socialistes, en l'occurrence, d'une taxe Zuckman qui en fait n'en était plus vraiment une?
Et que le Conseil d'État a dit qu'elle serait grosso modo inconstitutionnelle.
Ce que proposaient les socialistes, c'était d'introduire des échappatoires dans le dispositif. Il y en avait deux. Il y avait d'abord si vous étiez actionnaire d'une société innovante, et puis surtout si vous possédiez plus de 51% d'une entreprise, alors les actions, votre fortune, étaient exclues de l'impôt plancher. Et ça, c'est une profonde erreur. Parce que créer des exonérations, des échappatoires comme ça, c'est lancer la machine à optimisation. Et c'est ça qui a miné l'ISF et les autres impôts sur les grandes fortunes qui existaient en Europe. Parce qu'il faut rappeler l'histoire de tout ça. L'ISF est créé en 1981 sous le nom d'impôt sur les grandes fortunes. Les milliardaires de l'époque se mobilisent en disant « Oh là là, hors de question qu'on le paye ». Le pouvoir en place cède et crée une exonération pour les grosses détentions actionnariales. Posséder plein d'actions dans une entreprise, en l'occurrence plus de 25% du capital d'une entreprise, vous n'avez pas d'ISF à payer sur la fortune correspondante. Pour faire voter ça par l'Assemblée nationale de l'époque, au lieu de présenter des choses comme ça, le pouvoir de l'époque présente en disant « bon, il s'agit d'exonérer l'outil de travail, les biens professionnels ». Et c'est comme ça que l'ISF n'a jamais taxé les plus grandes fortunes. À la veille de son abolition, en 1980, l'abolition c'est en 2017, donc à la veille en 2016, d'après les travaux de mes collègues de l'Institut des politiques publiques, le taux effectif d'ISF pour les milliardaires, c'était 0,005%. Donc là, il y avait quand même une déroute politique, intellectuelle, majeure, qui, de mon point de vue, est l'échec le plus cuisant en matière budgétaire, en matière fiscale en France des 40 dernières années, dont il faudrait quand même tirer les leçons. Et la leçon principale, c'est que dès que vous créez des exonérations comme ça, bah, c'est se condamner à l'échec. Et moi, ce que j'ai fait dans mon travail de chercheur, c'est d'essayer de tirer les leçons de cette expérience pour proposer quelque chose qui ne répète pas les erreurs du passé. Et donc, une façon de ne pas répéter ces erreurs, c'est d'avoir un dispositif qui est sans échappatoire possible, donc qui va véritablement taxer les milliardaires.
Lumière ?
En fait, ce que je trouve très difficile de ce débat, c'est que c'est tellement évident que c'est ça qu'il faut faire.
Parle bien dans le micro, s'il te plaît.
Pardon, punaise, je vais y arriver. C'est tellement évident que c'est ça qu'il faut faire. C'est tellement évident que la situation est lunaire, mais au sens propre du terme. Et pour autant, l'attachement charnel, comme on le disait, au fait de ne pas être taxé est très très fort. Vous disiez tout à l'heure que c'est notamment à cause de la prise très forte sur le monde politico-médiatique des milliardaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe ? Parce que j'ai l'impression, en tout cas en France, qu'aux États-Unis, pour avoir vécu aussi pas mal aux États-Unis, c'est clair parce qu'on sait que les milliardaires financent les politiques. Voilà, ça c'est évident, ils financent des campagnes, etc. En France, à part ce sujet de les milliardaires détiennent les médias, qui est quand même un gros morceau, mais ouais. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne voient pas, qui ne perçoivent pas la pénétration très forte du pouvoir des milliardaires et de ces fameux 1800 foyers sur le monde politique, sur le monde médiatique peut-être un peu plus, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus de concrètement comment est-ce que ces 1800 personnes ont fait pour polluer le débat au point que quelque chose qui paraît si naturel, alors même qu'on est dans un contexte où on est en train de dire les personnes handicapées, les malades vont être moins remboursées, etc., et on se prive de cette source d'argent?
Il y a deux choses. Il y a d'abord l'emprise sur la vie économique, c'est-à-dire que les milliardaires et les entreprises, les très grands groupes qu'ils possèdent, sont des acteurs économiques de poids. Et donc, ils ont des clients, ils ont des partenaires en affaires. Et il y a plein de patrons, en fait. Enfin, il y a plein de gens qui pourraient soutenir cette taxe. Mais dès qu'ils sont tentés de le dire, tout de suite, ils se font taper sur les doigts, concrètement.
Voire même concrètement, menacés. Concrètement, on les appelle et on leur dit,
c'est dans des boucles, ouais. WhatsApp. Enfin, on leur dit, mais t'es fou de défendre ça et fais attention à ce que tu dis. Donc, il y a cette emprise sur la vie économique. Et puis, il y a quand même l'évolution du paysage médiatique. Enfin, ça, c'est quand même une évolution considérable. Le fait que 80% de la presse privée est détenue par des milliardaires, le fait qu'on a des chaînes maintenant, même si c'est censé être interdit, mais qui sont de fait des chaînes d'opinion extrêmement conservatrices, réactionnaires, c'est quelque chose qui a un poids très fort dans la conversation, dans le débat public. Bon, il y a aussi plein de gens qui sont payés, enfin un peu dont le salaire dépend du fait de pas comprendre la solution, et donc qui ont tendance à embrouiller tous les débats et ça aide pas non plus à la clarté du débat démocratique.
Merci.
Emilien.
Oui. Est-ce que de ce que j'entends, ce que vous dites, c'est que finalement en fait il y aurait parfois en France même des blocages qui seraient pas nécessairement aussi qui sont parfois plus importants que ce qu'on pourrait trouver aux États-Unis, où il y a peut-être une mentalité un peu différente. En tout cas, je sais que la gauche a pu proposer des choses, réussi à faire passer des choses, y compris Obama, qui étaient de taxation un peu plus importante, tout comme vous vous rappeliez dans votre ouvrage que, historiquement, aux États-Unis, il y avait aussi des mécanismes de taxation qui ressemblent un peu à ce que vous proposez déjà. Ma question, c'est est-ce que c'est lié au fait que la France est quand même plutôt, de ce que j'en perçois, un pays où la rente et l'héritage est important et que les grandes fortunes, peut-être plus qu'aux États-Unis, viennent d'héritage et d'entreprise familiale, on va dire, plutôt que de self-made man, ou je sais pas, un peu exagéré, mais voilà.
Je pense que les grandes fortunes, si vous voulez, l'explosion de la richesse des grandes fortunes, ça a été un phénomène mondial qui a été fort dans la plupart des pays, mais particulièrement fort en France. En fait, encore plus qu'aux États-Unis. Si vous regardez, par exemple, les 400 plus grandes fortunes américaines du classement Forbes, En 1982, elle possédait les 42% du PIB américain. Et là, c'est 20% du PIB américain. Nos 500 fortunes à nous, je l'ai rappelé, là, elles sont à 42% du PIB français. Donc, il y a cet élément-là. Il y a le fait que, disons, une différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, il y a plus une tradition de progressivité fiscale forte, c'est-à-dire d'utiliser l'outil de l'impôt progressif pour venir limiter, voire même plafonner les inégalités. C'est ce qu'avait fait Roosevelt à partir du New Deal, une politique qui a été continuée ensuite dans les années 50, 60, 70, jusqu'au tournant réaganien, d'avoir un taux marginal d'imposition sur les plus hauts revenus de 90% ou de plus de 90%. Ça n'a jamais existé en France. Et c'était une logique véritablement de revenu maximal qui suscitait l'adhésion dans la population américaine au milieu du XXe siècle. Il y a un discours célèbre de Roosevelt en 1942 où il dit « Écoutez, je pense qu'aucun Américain ne devrait avoir un revenu de plus de 25 000 $ et donc je propose de créer un taux marginal supérieur de 100% sur tous les revenus, quels qu'ils soient, au-delà de 25 000 $ Et les parlementaires de l'époque au Congrès, bon, disent 100%, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, ils votent 94%, ce qui est vraiment la même logique, quoi. C'est-à-dire d'utiliser la fiscalité pour réguler les inégalités, réguler l'économie de marché, limiter la concentration des fortunes, parce qu'il y a tout un courant, si vous voulez, dans le mouvement de gauche progressiste américain, qui, depuis la Révolution américaine, est vraiment, comment dire, très inquiet par le risque de capture du processus politique par les très grandes fortunes. Et le conflit, qui est un conflit inhérent dans toutes les sociétés démocratiques, entre l'extrême richesse, qui est toujours un extrême pouvoir, et la démocratie de l'autre. Donc aux États-Unis, l'outil fiscal a été utilisé pour essayer de résoudre ce conflit, beaucoup plus qu'en France, où la gauche a misé sur d'autres formes de régulation de l'économie, ça a pu être les nationalisations, etc. Donc là, il y a un enjeu, de mon point de vue, pour la gauche en France, de s'approprier l'outil fiscal et d'en faire un instrument et un mode de régulation central pour les décennies à venir.
Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale a parlé de la taxe Zucman en disant qu'elle était inconstitutionnelle. Moi, ça m'a surpris. C'est vrai ou pas?
Bah alors, faut demander au Conseil constitutionnel. D'abord, on peut pas préjuger de ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, mais surtout deux choses. D'abord, si on se place du point de vue des principes constitutionnels fondamentaux, la Constitution ne dit rien en matière fiscale, rien d'autre que de reprendre dans son préambule la Déclaration des droits de l'homme de 1789, son article 13 qui pose le principe d'égalité devant l'impôt, dont l'interprétation minimaliste faite par le Conseil constitutionnel lui-même, c'est que l'impôt ne devrait pas pouvoir être régressif, c'est-à-dire que les gens plus riches ne devraient pas pouvoir payer moins en proportion de leurs revenus que les autres catégories sociales.
Oh bah
si on se place du point de vue des principes fondamentaux, non seulement cette taxe est constitutionnelle, mais c'est plus que ça, c'est une mise en conformité de nos lois avec notre Constitution. Deuxième chose, évidemment, c'est toujours plus compliqué que ça, parce qu'il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel en 2012, à l'époque de l'ISF, où le Conseil constitutionnel a dit « Pour ce qui est de l'ISF, il ne peut pas être supérieur à 0,5% s'il n'est pas accompagné d'un mécanisme de plafonnement. » Mais cette jurisprudence est incohérente et incompréhensible. Pourquoi ? Parce qu'on a en France un impôt sur le patrimoine depuis la Révolution française qui s'appelle la taxe foncière, qui, sauf cas rare, n'est pas plafonné. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui posséderait 10 châteaux doit payer 10 taxes foncières, même si cette personne n'en tire aucun loyer, aucun revenu. Alors, on pourrait dire, oui, mais qu'est-ce que c'est que ça, 10 châteaux? Mais sauf qu'à l'époque de la Révolution française, quand la taxe foncière a été créée, c'était ça, la grande fortune de l'époque. Et ça a toujours été comme ça. Ça n'a jamais été jugé inconstitutionnel. Et donc là, il y a quand même une incohérence. Et par ailleurs, on est aussi dans une situation où il y a plein, plus pertinent pour la situation actuelle, des millions de Français qui payent en taxes foncières nettement plus que 0,5% ou même 1% ou même 2% de leur fortune chaque année. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour quelqu'un qui a, et c'est des millions de Français dans ce cas-là, qui a un logement d'une valeur de 200 000 euros, mais un crédit immobilier de 180 000 euros, donc la fortune nette de cette personne, c'est 20 000 euros. Mais sur le logement de 200 000 euros, il faut payer de la taxe foncière, à peu près 1%, donc ça fait 2 000 euros de taxe foncière. Sur un patrimoine de 20 000 euros, c'est 10% le taux, la taxe foncière, c'est 10% de votre fortune. pas de plafonnement. Le Conseil constitutionnel a toujours trouvé ça parfait. Donc, quand il s'agit de taxer à 5%, 10%, la classe moyenne, c'est OK. Mais 0,5% pour les riches, ah non, pas possible, il faut un plafonnement. Donc là, forcément, il y a un moment où cette jurisprudence va devoir être mise en cohérence. Et la façon la plus simple de la mettre en cohérence, c'est bien sûr de dire, comme on l'a toujours fait, qu'il est possible de taxer l'immense richesse indépendamment de tout revenu, parce qu'elle procure en soi une capacité contributive. Et donc, il n'y a pas à plafonner quoi que ce soit.
Je sais qu'on est regardé par les membres du Conseil constitutionnel. Hein, donc voilà, ils ont entendu.
Salut Richard.
Et peut-être une double question un peu plus personnelle, Gabriel Zucman. Vous êtes donc économiste reconnu, vous avez eu de nombreux prix. Première question, c'est qu'est-ce qui vous a décidé de sortir de votre labo de recherche pour aller ferrailler dans les médias comme vous l'avez fait ces derniers mois, pour aller essayer d'expliquer, faire cette pédagogie. La deuxième, c'est qu'est-ce que ça vous a fait aussi d'être reçu de cette façon dans les médias. Là où on a vu ces dernières semaines, Philippe Aguillon, le prix Nobel d'économie, lui être reçu comme s'il incarnait le neutre, alors que c'est l'un des co-rédacteurs du programme d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a eu un engagement partisan avéré, mais vous étiez le diable quand lui était le neutre.
Ça dépend des chaînes que vous regardez. Mais
faut me dire lesquelles ne vous ont pas traité comme ça.
Sur la première question, pour moi, ces interventions, c'est le prolongement de mon travail de chercheur. C'est-à-dire, ça fait 15 ans que j'étudie ces grandes fortunes, j'essaie de cartographier leur richesse, objectiver leur technique d'évasion fiscale. Et quand on a compris des choses, ça fait partie du travail de chercheurs en sciences sociales, de permettre une appropriation citoyenne des savoirs. On ne peut pas juste rester entre nous, essayer de chiffrer l'évasion fiscale et que ces connaissances restent comme ça dans un petit cercle d'universitaires. Elles ont vocation à être diffusées dans la population. Première chose. Deuxième chose, le rôle de l'économiste, c'est certainement pas de dire « voilà, il faut faire les choses comme ci ou comme ça ». C'est-à-dire, c'est pas le sens de ma démarche. Sur n'importe quelle question, il y a toujours une panoplie de politiques possibles, de réponses possibles. Et là où les économistes, les chercheurs en sciences sociales peuvent être utiles, c'est en expliquant précisément la gamme des possibles et en mettant l'accent sur des solutions qui n'auraient pas été bien comprises auparavant, comme par exemple cet impôt plancher de 2%, mais pas dans une approche en surplomb technocratique pour dire « voilà la seule façon de faire les choses ». Au contraire, pour alimenter un débat démocratique et permettre aux personnes de voter en étant bien informées. C'est pour moi le sens de cette démarche. C'est vraiment pas se substituer au débat démocratique, mais tout l'inverse, permettre de faire vivre une démocratie de haute intensité, en quelque sorte.
Et sur la deuxième question ?
Et sur la deuxième question, sur les réactions que j'ai eues, moi, je suis pas surpris par ces réactions pour deux raisons. La première, c'est que j'ai vu des choses quand même assez similaires aux États-Unis au moment de la campagne 2019-2020. Pareil, avec une grosse mobilisation des milliardaires, des médias, etc., contre les propositions d'impôt sur la fortune, Sanders, Warren. Et la deuxième chose, surtout, c'est que j'ai étudié les débats fiscaux, l'histoire de ces débats, et que ça se passe un peu toujours comme ça, quoi, finalement. Ces idées, elles rencontrent des résistances. Et puis, quand même, ensuite, quand on explique, quand on comprend, quand ce débat démocratique a lieu, c'est comme ça qu'on marque des points et qu'on finit par progresser.
Loumire ?
Sur ce sujet, ça m'interroge de voir justement la stratégie pour sexifier un peu ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est aride et qui fait, je pense, qui rebute beaucoup de gens aussi, qui, au-delà du fait de idéologiquement sont pour ou contre, se disent « non mais je vais rien comprendre, oh là là, c'est trop compliqué, il y a des chiffres et tout ». Et donc, ce que j'ai beaucoup moins retrouvé aux États-Unis, où il y avait vraiment plus une volonté du politique, mais aussi des influenceurs, des youtubeurs, etc., à s'emparer des syndicats aussi, de s'emparer de ce sujet en disant « non, on va en faire un sujet populaire ». Parce qu'en fait, ça concerne tout le monde et c'est très important que nos bases s'en saisissent. Est-ce que vous voyez ce même phénomène en France ? Et sinon, comment est-ce que nous, collectivement, on peut aussi participer à alimenter le débat sur ces questions ?
Moi, j'ai l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une immense soif de savoir et de s'approprier les connaissances sur ces sujets. Par exemple, j'étais à Clermont-Ferrand lundi. une rencontre en librairie, il y avait près de 400 personnes. Ensuite, à l'université de Clermont-Auvergne, un lundi soir à 21h, il y avait 1000 personnes, trois amphis pleins. Je pense que c'est quand même révélateur du fait que les Français, ils veulent comprendre. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent comprendre ? Parce que la question fiscale, c'est la question démocratique et la question citoyenne par excellence. Enfin, c'est via l'impôt qu'on fait société, qu'on peut agir en commun. Et c'est particulièrement vrai dans des sociétés comme la nôtre, où la puissance publique prélève à peu près la moitié des revenus qui sont touchés chaque année pour ensuite faire tourner notre état social, investir dans notre éducation, dans notre santé, dans nos services publics. Et donc, comprendre comment tout ça fonctionne, voter sur ces choix-là, c'est en fait quasiment la chose la plus importante, une des choses les plus importantes qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant qu'électeur. Donc moi, je pense que voilà, c'est un sujet qui passionne les gens et c'est pas prêt de s'arrêter.
Émilien ?
Oui, Jean, je parlais de votre livre et de votre thèse avec un camarade sociologue qui fait une thèse sur l'histoire de la régulation des prix du logement, qui s'appelle Maxence Dutilleul, et on se disait... Bon, évidemment, c'est dans l'idéal. Je sais que votre sujet, c'est la fiscalité et l'argument sur... y compris historique, sur le lien entre fiscalité et démocratie est très convaincant, mais on se demandait, est-ce que, dans l'idéal, le rôle de l'État est de venir, en fait, en fin de processus, pour essayer de compenser, de rattraper un peu les problèmes d'inégalité, de dire, bon, toi, t'as quand même eu trop, on va te prendre, on va donner à l'autre. Est-ce que c'est une question, est-ce que toute la question des inégalités se règle par la fiscalité ? Est-ce qu'il y a des questions de... propriété, de financiarisation de l'économie ? Je sais que la réponse est non, mais est-ce que vous voyez d'autres éléments ? Évidemment, il faut commencer par ce qu'on peut, mais pour prendre peut-être encore plus à la racine la question des inégalités économiques.
Oui, il y a évidemment plein d'autres politiques extrêmement importantes, la question du salaire minimum, la question de la régulation du marché du travail, la régulation financière, enfin tout ça est absolument essentiel. De façon un peu, comment dire, scolaire, les économistes classifient ces différentes politiques en deux catégories. Il y a les politiques dites de prédistribution et de redistribution. La prédistribution, c'est agir sur la répartition primaire des revenus, c'est-à-dire avant intervention de la puissance publique. Et puis la redistribution, c'est effectivement prendre aux gens qui ont un revenu très élevé pour redistribuer au bénéfice des catégories sociales qui ont des revenus plus faibles. En fait, l'outil fiscal qui souvent est classé dans la case redistribution, c'est plus compliqué que ça. Il joue sur les deux tableaux et c'est pour ça que c'est si puissant. Évidemment, ça fait de la redistribution, l'impôt, mais ça aussi, ça vient changer la répartition primaire des revenus et le fonctionnement de l'économie de marché elle-même. Et l'illustration la plus claire de ça, c'est de nouveau ces politiques de taxation très progressive des revenus qui existaient aux États-Unis au milieu du XXe siècle, aussi au Royaume-Uni au milieu du XXe siècle. Parce que vous voyez bien que si vous faites un impôt de 94% ou 100% sur tous les revenus de plus de $25,000 de l'époque, mais qui est en 2 millions d'euros d'aujourd'hui, ça veut dire que plus personne ne va chercher à gagner plus de 2 millions de dollars. Il n'y a juste plus aucun intérêt, puisque quasiment tout au-delà de ce seuil-là irait au fisc. Et c'est ça qui a permis de réduire les inégalités primaire. Et donc, c'est en ça que l'outil fiscal est particulièrement puissant, même si, bien sûr, c'est pas le seul.
On voudrait parler avec vous de Zohran Mamdani, le nouveau maire de New York. Vous avez longtemps étudié et enseigné aux États-Unis. Vous êtes d'ailleurs franco-américain. D'abord, je me tourne vers toi, Emilio. Est-ce que c'est vrai que Zohran Mamdani est un communiste, comme le dit Donald Trump ?
Apparemment, quand tu fais 5 épiceries avec des prix pas chers dans New York, apparemment, c'est déjà communiste. Donc,
ça commence tôt, hein, le communisme.
C'est vrai, c'est vrai.
Vous en pensez quoi, Gabriel Zucman ? C'est le début du communisme ?
Ouais, non, on en est vraiment très loin. Hein. C'est comme l'impôt plancher de 2%. C'est vraiment pas du tout du communisme.
Ça se discute.
Mais Zohran Mamdani, ce qui est une des choses qui est intéressante, c'est le mouvement global dans lequel il s'inscrit. Il propose, évidemment, les épiceries, le contrôle des loyers, les transports publics, mais de financer tout ça en allant taxer les super-riches new-yorkais. En l'occurrence, les personnes qui, à New York, ont un revenu de plus de $1 million par an, aujourd'hui, elles payent à peu près 4% d'impôts à la ville de New York en plus de l'impôt qu'elle paye à l'État de New York, en plus de ce qu'elle paye à l'État fédéral. Et lui, il veut faire passer ça de 4% à 6%. C'est quand même une augmentation de 50% de l'impôt new-yorkais pour les plus hauts revenus. Et je pense que ça illustre la bascule plus générale à laquelle on assiste depuis 2024-2025. Donc, quelques illustrations. Il y a en 2024, le Royaume-Uni, qui souvent est à l'avant-garde sur ces questions, a aboli le régime des non-DOM, c'est-à-dire le privilège fiscal pour les très grandes fortunes étrangères qui étaient installées au Royaume-Uni, qui n'avaient pas à payer d'impôts pour l'essentiel au Royaume-Uni. Ensuite, Mamdani fait campagne sur taxer les ultra-riches, il gagne. Ensuite, très récemment, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, la Californie a annoncé qu'elle allait tenir un référendum pour créer un impôt de 5%, un impôt unique de 5% sur les milliardaires. Ça va être voté en novembre 2026 en Californie. Ça va faire partie des différentes propositions qui vont être votées pendant les midterms et ça va être sans doute un point focal de la campagne des midterms. Et c'est sérieux, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de sondages qui ont été faits, c'est 60-65% de soutien dans la population californienne. Donc ça pourrait être le premier, et je pense à une très bonne chance en fait, d'être le premier impôt sur les milliardaires voté où que ce soit dans le monde. Il y a les Suisses qui vont voter à l'automne sur la création d'un impôt sur les successions de 50% pour les successions de plus de 50 millions de francs suisses. Je pense pas que ça va passer, celui-là. Je pense pas que la révolution fiscale va venir de Suisse. Mais je pense qu'elle a plus de chances, en l'occurrence, de venir des États-Unis, où je préférais et je continue à espérer de France avec l'impôt plancher. Il y a aussi tout ce qui a commencé l'année dernière au G20 avec le Brésil et qui continue parce qu'il y a tout un tas de pays, le Brésil bien sûr, mais aussi l'Espagne, le Chili, la Colombie, l'Afrique du Sud, qui ont décidé de former une coalition des volontaires pour faire continuer ces discussions sur l'imposition des milliardaires. Et donc là, voilà, pour moi, Mamdani, il s'inscrit clairement dans ce début de tournant mondial où simplement les peuples du monde entier en ont assez des privilèges fiscaux de cette aristocratie contemporaine.
Lumière ?
À quel point vous pensez que ces propositions peuvent être portées au niveau fédéral aux États-Unis ? Parce que ce qu'on a beaucoup entendu, c'est non, mais c'est parce que c'est New York, de toute manière, c'est tous des démocrates, etc. Moi, j'ai l'impression que ça peut, en l'occurrence, les endroits où j'ai passé beaucoup de temps, qui sont les Appalaches, majoritairement la Virginie occidentale, Kentucky, sont des comtés qui ont en totalité voté pour Bernie Sanders par rapport à Hillary Clinton dans les dernières primaires. Mais c'est vrai que les classes populaires blanches rurales font partie des plus victimes de la propagande capitaliste selon laquelle les riches ont mérité et ce serait confiscatoire de les priver. Et donc la question que je me pose, c'est comment est-ce que ce discours il peut fonctionner ailleurs dans d'autres couches, y compris dans des couches plus conservatrices mais extrêmement populaires elles aussi.
Oui, il fonctionne de fait parce que toutes les enquêtes d'opinion qui ont été faites aux États-Unis sur les propositions de Bernie Sanders, d'Elizabeth Warren montraient que c'était 80% des démocrates qui soutenaient l'impôt sur les très grandes fortunes mais aussi 50-60% des républicains et des indépendants. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Joe Biden. Ça, c'est vraiment un cas assez spectaculaire. Joe Biden avait fait campagne en 2019 contre les projets d'impôt sur les grandes fortunes qui étaient portés par Sanders et Warren. Et une fois élu, il a mis dans son propre budget de président des États-Unis une mesure qui n'était pas du tout dans son programme, qui s'appelait la Billionaire Income Tax, qui était un impôt de 25% sur le revenu des Américains avec plus de 100 millions de dollars de richesse, mais en incluant les plus-values latentes dans le revenu. Alors concrètement, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire qu'il allait prendre en année 1, 25% du stock de plus-value latente, c'est-à-dire pour l'essentiel 25% de la fortune des milliardaires, c'est 25% énorme. De la fortune d'Elon Musk, 25% de la fortune de Jeff Bezos.
C'est énorme.
Voilà, en année 1. Et ensuite, chaque année, 25% sur l'augmentation de leur fortune.
Et c'est Biden
qui a
fait
ça ? C'était non seulement dans le budget de Joe Biden, mais il l'a fait voter par la Chambre des représentants quand les démocrates avaient la majorité à la Chambre des représentants et c'est pas passé au Sénat et d'assez peu. Et c'est le même Joe Biden qui, il venait de loin, hein. c'est pas l'aile gauche du Parti démocrate. En 1986, il était déjà sénateur, il avait voté la réforme fiscale de Reagan en 86 qui baissait le taux d'imposition des plus riches américains de 70% à 28%. Et il a complètement changé sur la fin de sa vie, à tel point que cette proposition de billionaire income tax, C'était une des propositions en matière économique qui lui tenait le plus à cœur, dont il parlait le plus, jusqu'à en venir dans son discours d'adieu à dénoncer la capture oligarchique du pouvoir fédéral américain. Donc c'est pour vous donner quand même une idée de l'évolution rapide qui a pu se passer dans un pays comme
mais qui est finalement en parallèle avec l'évolution délirante du néolibéralisme. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de parler de ce que nous, on propose. Mais c'est faire abstraction de la situation qui dérape totalement, où on revient sur ces 42% du PIB pour les 500 plus grandes fortunes. Enfin, franchement, j'ai l'impression qu'on ne fait que parler, nous, de ces taxes. Et donc, on nous reproche d'être... de taxer, toujours taxer, mais t'es là. Mais en fait, on n'a jamais la conversation sur l'augmentation de ce qui a taxé et de l'assiette, en fait. Mais c'est la conversation commence ici.
Mais c'est en ça que j'ai peut-être l'impression que vous avez aussi changé de stratégie personnelle dans la façon d'aborder le débat public. Vous avez commencé en disant cet impôt plancher, c'est pas grand-chose. Regardez, c'est raisonnable, c'est le minimum. Mais que vous êtes aussi rendu compte de l'opposition que ça a généré. Et donc, vous avez été aussi un peu plus offensif, comme si vous vouliez ouvrir la fenêtre d'Overton fiscale pour regarder tout ce qu'on pourrait faire. Et moi, ce que je vous propose au départ, c'est 2%. Vous voyez, c'est pas grand-chose quand même. Est-ce que ça faisait partie aussi de la façon de votre façon de réfléchir, pardon?
Oui, j'ai toujours été parfaitement clair sur le fait qu'avec 2%, vous n'allez pas ne serait-ce que stabiliser les inégalités de patrimoine et pas les faire baisser. Si on avait 2%, les inégalités de fortune continueraient à augmenter. Et donc, on a besoin, je pense, de se donner la possibilité de venir stabiliser et réduire ces inégalités de fortune. Et donc, il faut forcément, dans un pays comme la France, compte tenu de la dynamique d'explosion des plus hauts patrimoines, il faut forcément aller plus loin. Et en même temps, il faut commencer quelque part. Et moi, mon idée, c'était de commencer par poser un principe sur lequel tout le monde devrait pouvoir se mettre d'accord.
Et que ça ferait un effet cliqué.
Le principe que les gens les plus fortunés ne devraient pas pouvoir payer moins que les autres. Et c'est quand même une petite innovation, parce que c'est de dire que quand vous êtes immensément fortuné, vous devez avoir des obligations incompressibles vis-à-vis de la communauté nationale. C'est quelque chose qui, en fait, on pourrait dire, c'est évident. Après tout, vous êtes milliardaire, c'est quand même, vous avez bénéficié des infrastructures, de l'éducation, de la santé, des tribunaux qui protègent vos propriétés, etc. Donc, évidemment, vous devriez avoir des obligations fiscales personnelles. Bien sûr, vos entreprises, elles paient de l'impôt, mais vous-même, personnellement, en tant que contribuable personne physique. Or, on est aujourd'hui en 2025, et on n'a toujours pas ce principe-là qui est écrit nulle part, dans aucune de nos lois, même dans aucun pays. Et donc, en fait, ce combat en lui-même, même indépendamment du taux, le taux de 2% est très faible, mais indépendamment du taux, de poser ce principe de devoir incompressible, je pense, c'est un combat fondamental, et c'est déjà un combat assez difficile à mener.
Dernière question. Imaginons que la gauche s'unisse. Imaginons, faisons un rêve, j'en sais rien. Primaire, tout ça, 2027 se prépare, la gauche s'unit derrière une candidature exaltante. Qui vous demande, est-ce que vous avez des idées? Je suis en train d'écrire mon programme.
Vous voulez quelle circonscription?
Moi, je pensais déjà au ministère de l'économie.
Mais ça, on en discutera après. Finance, vulgarité. D'abord, on est sur le monde des idées. En fait, ma question, c'est est-ce que vous avez d'autres idées dans votre besace que cet impôt plancher à 2%?
Oui, ça, j'en ai. J'en ai un certain nombre, ça c'est sûr. On n'est pas encore à l'étape d'écrire un programme, de démocratisation,
comment vous
de démocratisation
touche,
économique
là
et politique. Là, l'impôt plancher. Écoutez, c'est déjà une bataille très compliquée. Donc, sauter les étapes. Hein. Vous avez vu les mobilisations. On pourrait se dire, mais quand même, une petite proposition de rien du tout comme ça, ça devrait être voté d'un claquement de doigts. C'est l'évidence. Vous avez vu les mobilisations.
Vous aviez une autre proposition sur la taxation des multinationales qui a été adoptée de façon... ça a été fait un peu n'importe comment dans les rédactions à l'Assemblée nationale. Apparemment, ça n'a pas taxé grand-chose, mais vous aviez une proposition sur la taxation des multinationales.
Oui, très juste. Vous avez parfaitement raison de le mentionner. Il y a eu un amendement qui a été voté pour dire finalement les multinationales qui ont des clients en France, qui font du chiffre d'affaires en France, mais qui se sont débrouillées pour enregistrer leurs bénéfices à l'étranger, dans des paradis fiscaux, on va les faire payer plus en France. Et ça, ce principe est fondamental. Et plus généralement, l'idée de venir conditionner l'accès au marché français au fait de se rapprocher des normes françaises, que ce soit en matière fiscale, que ce soit en matière environnementale, climatique, sociale. Ça, c'est une idée qui est extrêmement importante, qu'on peut décliner de mille façons. Et cet amendement-là, c'est une façon de décliner cette proposition-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à avoir des ventes, des clients français et payer 0% ou 5% d'impôts quand la PME française, quand l'entreprise française, elle paye 25%, c'est la norme. Donc, on devrait dire, si vous voulez continuer à avoir accès à notre marché, vous devez appliquer les règles, les normes françaises.
Merci beaucoup, Gabriel Zucman, d'être venu sur le plateau de Baxit. Gabriel Zucman, qui, je le rappelle, a sorti un livre « Les milliardaires ne payent pas d'impôts sur le revenu et nous allons y remédier ». C'est aux éditions du Seuil. C'est un bouquin qui est très clair. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse en économie pour le lire. Il est très court, il est très cool. Lisez-le, mangez-en, c'est bon pour la santé. On va faire une pause, les amis. On se retrouve après la pause avec notre invité politique cette semaine, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. À tout à l'heure après la pause.
C'est pareil, c'est la même chose.